des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Entre deux lavages de mains.
On va ouvrir certains robinets.
Vincent Desureau commente l'actualité avec vous. Cube Radio.
Un été pas comme les autres.
Alors que le point de presse n'est toujours pas terminé hein, de M. Arruda et de Christian Dubé répondent aux questions. On est toujours à surveiller si des éléments intéressants d'informations ressortent de tout ça. Vous rappelant que c'était les bars aujourd'hui au centre de toutes les annonces. Donc, ils devront fermer à minuit maintenant. L'alcool termine à minuit. Les gens devront avoir quitté pour une heure. Alors, c'est on serre la vis en raison, entre autres, d'une hausse de cas au Québec. 137 nouveaux cas supplémentaires aujourd'hui. Alors, ça faisait plusieurs jours maintenant qu'on n'avait pas dépassé le 100. Alors, c'est le cas aujourd'hui. Évidemment, sur une tendance à surveiller, voir si elle est solide ou si c'était seulement un soubresaut, disons, dans la courbe qui était vraiment assez plate depuis quelques temps. Et on sait qu'au centre, là, énormément de discussions au Québec. Le masque, là, c'est vraiment le sujet numéro un qui déchire. Je suis allé dans la région de Québec en fin de semaine. Là-bas, presque personne ne porte. Tu vois qu'à Montréal, on l'avait délaissé le masque. Et là, je pense que ça revient pas mal. Entre autres, dans le mois qui reprend le métro, j'en vois énormément de masques à nouveau. Surtout que on s'apprête à le rendre obligatoire. Ce sera le cas dans les prochains jours. Mais ce sera difficile si jamais on impose le masque aux Québécois dans les espaces confinés à l'intérieur. On s'attendait même peut-être à ce que ce soit annoncé aujourd'hui dans ce point de presse que on allait imposer cette mesure-là à la grandeur du Québec. Pour en parler, il existe un groupe des masques pour tout le monde qui défend et qui propose le port du masque obligatoire au Québec. Pour en parler, ils sont peut-être déçus du fait que ça n'a pas été annoncé aujourd'hui. On rejoint Nancy Delagrave, physicienne, mathématicienne et cofondatrice de ce groupe des masques pour tout le monde. Madame Delagrave, bonjour.
Bonjour, M. Bessureau.
Donc, êtes-vous déçu que dans ce point de presse, on n'ait pas retrouvé de nouvelles mesures sur le port du masque? Est-ce que vous y attendiez?
On s'y attendait. Depuis mardi, on entendait par les journalistes que ça allait être le cas. Je travaille aussi avec un groupe de médecins surtout qui ont fait des pressions et on a déposé hier une pétition de 350 noms au cabinet du docteur de monsieur Legault. Et on s'attendait à ce que ce soit fait et on est déçus. On comprend l'importance de faire des annonces sur les bars, mais en réalité, une bonne manière aussi de gérer l'éclosion des cas dans les bars, c'est d'imposer le port du masque. D'ailleurs, à Montréal, il y a deux bars au minimum qui l'ont fait. Il y a Joe Verts et je vais essayer de réfléchir. En tout cas, il y a deux bars dans la région de Montréal qui l'ont fait. Donc, c'est possible. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en Tchéquie, ça a pris 3 jours pour imposer le port du masque obligatoire au pays. Et ça a été un mouvement toutes les couturières, les couturiers se sont mis à faire des masques et en distribuer à tout le monde. Et en Tchéquie, ça se passe très, 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 très bien maintenant. Et ils ont, à vrai dire, relâché les mesures parce qu'ils ont presque plus de cas.
Ici, l'acceptabilité sociale, ça semble être très difficile. Mais effectivement, oui. Il y a quelques mois, Madame Delagrave, on dirait que les Québécois, tout le monde rentrait dans les rangs, on suivait ce que le gouvernement disait à la lettre, même que les Québécois étaient ceux qui respectaient le plus les règles au Canada. Où est-ce qu'on a perdu les gens là-dessus sur le masque, selon vous?
Mais, je pense que c'est deux choses. Premièrement, il y a la question de... Excusez-moi, j'ai un écho, ça me dérange un petit peu. Donc, tous les gens écoutaient le point de presse au départ. Et il y avait une clientèle captive. Et malheureusement, le message du docteur Arruda était confus. D'abord, il a dit que le masque pouvait contaminer, les gens pouvaient se contaminer en portant les masques. Ensuite, il a dit que ça donnerait un faux sentiment de sécurité. Et il a dit ça quand les gens étaient captifs, alors que lorsqu'il a recommandé le port du masque et lorsqu'il a recommandé fortement le port du masque, il n'a présenter, à ma connaissance, et je suis quand même assez bien les points de presse, aucun argument scientifique qui disait, par exemple, que le masque retient à la source, donc protège les autres qui sont dans la même pièce que nous, protège le porteur. L'évidence est assez claire. Une méta-analyse de The Lancet a jugé que seulement pour la COVID, on réduit ses chances de 85% en portant le masque d'attraper la COVID et aussi protège la collectivité. Donc, quand on a 80 à 100% d'adhésion au niveau du port du masque, on se ramasse dans une situation comme Taïwan, où est-ce qu'il y a 24,5 millions d'habitants qui n'ont jamais été confinés et qu'il n'y a seulement que 7 décès.
Bon, c'est ça. Scientifiquement, on a des réponses, mais on le voit pas comme un outil, parce que les gens vont défendre leur liberté en disant, mais moi, je garde ma liberté, mais c'est beaucoup un outil qui permet la liberté, le masque, et ça semble être peu compris.
Exactement. Lorsqu'on a un masque, premièrement, c'est possible de se rapprocher un peu plus. C'est possible de continuer nos activités sociales. Moi, je connais des gens qui sont immunosupprimés, font de la dialyse, des choses comme ça. Et c'est des gens qui vivent avec la peur au ventre parce qu'ils pensent que si elles sortent, s'ils sortent, à ce moment-là, ils peuvent attraper la COVID. Et s'ils attrapent la COVID, c'est un diagnostic de mort selon eux ou presque. Donc, on protège tous les gens. Mais on se protège aussi. Et il faut pas penser que parce qu'on est jeune, on n'est pas touchable. En réalité, il y a des gens de 20, 30 ans qui sont décédés. Et en réalité, souvent les symptômes, on les voit quelques mois après. Et les gens ne réalisent pas qu'ils ont des lésions au poumon et des choses comme ça. Ils ont souvent des lésions au cerveau. Qui vont, leur donner des une perte de connaissance ou des choses comme ça. Donc,
et on l'a dit. On l'a vu là, et je posais la question, où est-ce qu'on a échappé un peu les gens, mais comment on les ramène si on sent le besoin, puis on voit effectivement le cas qui augmente, puis moi je pense que de passer par le port du masque plutôt que par le fait de se reconfiner ou de fermer encore une fois des pans de notre économie. Je préfère vraiment porter le masque. Il faut rappeler qu'on le porte pas du matin au soir. On le porte en allant à l'épicerie, en allant dans le métro ou dans l'autobus. C'est pas si pire que ça. Comment on ramène les gens à l'accepter lorsqu'ils sont déjà très rébarbatifs à l'idée?
Ben, premièrement, on leur dit que chaque masque, ça, c'est une étude de Yale. Un masque de 15 $ a, dans le fond, c'est un investissement de 3 à 6 000 $. Et on dit que depuis qu'ils font des études, c'est jamais arrivé que dans l'humanité, on peut faire un si petit investissement et récolter d'aussi grands bénéfices. Et ça, ils le calculaient avec la diminution de la mortalité. On dit aussi que personne n'a le droit d'infecter les autres. Et à chaque fois qu'une personne est infectée, les coûts à ça sont énormes. Premièrement, tout le personnel de la santé qui est mobilisé à enquêter, à soigner ces gens-là. Tous les coûts pour les gens qui vont vivre des deuils ou qui se ramassent en situation de prendre soin de ces personnes-là qui sont très malades. Donc, en réalité, plus on applique les mesures et qu'on éteint l'économie, l'épidémie, comme le docteur Arruda l'a dit, plus on va pouvoir reprendre tôt nos activités, ce qui a été le cas en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ils ont presque plus de cas et ils peuvent rouvrir avec beaucoup, beaucoup moins de restrictions. Alors que nous, on vit toujours avec l'épidémie qui gronde comme un feu de forêt, là.
Pensez-vous, sur un discours plus général là, sur les médecins, parce qu'on parlait du masque, les gens ont tous leur avis là-dessus, mais les médecins, il n'y a pas si longtemps, tout ce que les médecins disaient, c'est un peu parole d'évangile, et là, on dirait que les plus grands experts s'époumonent à nous dire, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la pandémie, qu'est-ce qu'on doit faire, et on sait sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tout le monde a ses théories, et les médecins, c'est juste travail pour les pharmaceutiques, faut pas les écouter, qu'est-ce qui s'est passé dans le discours des médecins? Est-ce qu'ils payent pour les dernières décennies où on s'est trop concentré sur des médicaments ou autre chose? Avez-vous une idée là-dessus?
Mais Moi, je voudrais dire que pour l'appel au, dans le fond, au gouvernement qui a été lancé le 11 juin, on avait la docteure Caroline Coatton, qui est infectiologue, on avait le docteur Calvaz, qui est infectiologue, on avait la docteure Joanne Liu, je me rappelle pas de sa spécificité, on avait les plus grands experts qui ont appelé le gouvernement à rendre le port du masque obligatoire. Écoutons ces experts-là. Et écoutons la science. En réalité, moi, je regarde la littérature, je la lis attentivement depuis la mi-mars, et les preuves sont de plus en plus du côté des masques. Alors, il s'agit de peut-être faire confiance aux bonnes personnes.
Ce que les gens font pas assez clairement. De nos jours,
les gens font pas leur recherche et sont mal informés, malheureusement. C'est un problème d'information et d'éducation. Puis peut-être que la campagne de sensibilisation a pas fonctionné et qu'il faut en mettre une en place.
Et peut-être rappeler, parce que je vois, Mme Delagrave, quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, là, et même dans des vidéos de conspirationnistes qui disent, ben, un virus, là, c'est beaucoup plus petit que le filet, disons, d'un masque et ça passe facilement à travers. Ça, c'est pas très difficile à défaire comme argumentaire, oui, pour quelqu'un comme vous, là.
Non, je suis très contente que vous me posiez la question. Alors, le virus lui-même a 0,13 microns de diamètre. Mais en réalité, il ne voyage pas seul. Il voyage dans des gouttelettes ou des gouttelettes desséchées qui ont un substrat biologique. Donc, les masques, et il y en a qui ont des filtres, à vrai dire, de 0,10 microns à 0,5 microns, qui sont vendus au Québec. Ce sont des masques en tissu. Donc, c'est très, très, très possible de faire des masques qui vont attraper ces virus-là. Et le masque, il travaille dans les deux sens. Premièrement, il retient les gouttelettes à la source, donc il retient la charge virale. Et il y a des études très sérieuses qui montrent que quand les gens portent un masque, la charge virale est très, 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 très peu dans le fond, au sortir du masque, mais ça filtre aussi lorsqu'on inspire. Donc, ça filtre dans les deux cas et il y a quelque chose, une notion très importante, qui est la notion de charge virale, c'est-à-dire que si un virus tout seul, là, ce qui n'existe pas vraiment dans la nature, mais que je l'attrape d'une manière quelconque, ben probablement que mon système immunitaire va pouvoir le combattre. Donc, quand on réduit la charge virale, on augmente nos chances de pouvoir combattre, dans le fond, la COVID.
Et on va pas manquer d'oxygène au cerveau.
Non,
ça c'est clair aussi.
J'ai vu la démonstration de Alain Vadeboncœur, il a publié ça dans l'actualité. Oui. Donc, il montre qu'il porte plusieurs masques, il en porte trois, il porte même, je pense, des draps autour de lui, et il mesure son taux de saturation en oxygène, et ça varie de 1%. Donc, il a montré que finalement, c'est pas vrai, là, ce qu'on nous dit.
Ben c'est bien de le rappeler, même si on a l'impression de se répéter un peu. Ben ce sera votre rôle, je pense, dans les prochains jours. Nancy Delagrave, merci beaucoup.
Merci, M. Dessureau.
Au revoir, Nancy Delagrave, physicienne, mathématicienne et cofondatrice du groupe des masques pour tout le monde. Donc, on s'y attendait peut-être à ce qu'il y ait une annonce aujourd'hui. Peut-être qu'on a vraiment voulu laisser la place à l'annonce de bord, là, y aller une annonce à la fois. Mais ça se peut bien qu'on installe cette mesure à l'extérieur de Montréal, donc dans les différentes régions du Québec. On voyait aujourd'hui quelques cas au Saguenay. Là, ça va vous rappeler que c'est des 5-6 cas. Là. C'est quand même très faible. Mais c'est une mesure qui sera peut-être appelé à être utilisé davantage, alors que, pour vous faire un petit coup d'œil à l'international, on surveille toujours la Floride, évidemment, depuis quelques semaines maintenant. Sachez qu'aujourd'hui, c'est 9000 nouveaux cas, donc qui s'ajoutent. Ce qui est un gros jeudi, là, faut comprendre qu'on a dépassé les 10 000. Ça devrait être vendredi, samedi. Là, c'est pas mal les plus grosses journées en termes de nombre de cas là, en Floride. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est le nombre de décès qui, là, commence à monter. On est à 120 nouveaux décès dans les 24 dernières heures en Floride. Et c'est le plus gros nombre de décès depuis le début de la pandémie là en Floride. Donc oui, c'est en baisse. Là. Je disais, le premier 100 000... cas en Floride versus le deuxième, c'est 82% moins de décès. C'est énorme. Évidemment, on a appris à mieux le traiter. Il semble que les médecins sont beaucoup plus efficaces qu'ils étaient à contrôler la COVID. On a été capable d'avoir des respirateurs. On a été capable de grandir le nombre de lits dans les hôpitaux. Mais là, on arrive un peu au bout de ça. Là. Je voyais entre autres au Texas. Je parlais de la Floride, mais Texas, c'est un des États à surveiller. Texas, entre autres à Austin, à Houston, on disait... Il nous reste à peu près 2 semaines de hausse du genre à être capable de supporter dans le milieu de la santé. Après ça, on n'a plus de place. Saturation qui s'en vient donc sur un horizon rapproché. Si en plus ça augmente pas encore plus vite, mais on devra aplatir cette courbe là rapidement au Texas, sinon on va se retrouver avec des hôpitaux bondés et c'est là que les gens meurent. Là, quand tu peux pas les traiter, évidemment, on est dans les hôpitaux entre autres en Floride, en Californie, en Oklahoma, des États qui sont très touchés. Là, c'est la course. Là où on était nous il y a quelques mois, là, la course au lit, ouvrir des nouveaux étages, installer des nouvelles unités de soins intensifs. Des unités à pression négative pour la COVID. C'est la course folle là, pour essayer de faire des lits. Pour l'instant, on en manque pas aux États-Unis, mais à certains endroits, ça commence à devenir assez chaud et les bilans de décès, malheureusement, seront à la hausse un peu partout. Comme on voit l'âge moyen également des gens qui sont atteints de la COVID en Floride qui augmente un peu au fil des jours. On arrivera à une population qui est plus fragile. Malheureusement, dans les prochaines semaines, c'est presque certain. On s'arrête quelques instants. On revient.